Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes au Libre Journal des controverses. Comme tous les samedis, je reçois aujourd'hui Laurence Beneux pour son dernier livre « Pédocriminalité, l'hypocrisie française ». Laurence Beneux, journaliste indépendante qui a travaillé pour des grands médias aussi, qui travaille aujourd'hui pour Off Investigation, Tocsin, etc. Elle a été l'auteur en 2001, du livre de la honte, les réseaux pédophiles au Cherche Midi. Donc on va en parler pendant 7h30. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker et Lara Stam du Libre Journal de géopolitique profonde, avec notre ami Philippe Murer. Je salue pour le retour, pour le comeback de la Spielberg des réalisatrices, notre ami Nini Vlam. Elle est leader du groupe Nini Vlam qui fait des tournées partout en France et qui chante du Jean-Jacques Goldman comme personne. Je salue bien entendu Patrice, l'homme à la belle écriture. Il attend vos coups de fil, il attend d'écrire et de m'apporter des questions, parce que je sais que aujourd'hui les questions seront excessivement nombreuses. Alors, chère Laurence, dites-moi, depuis 2001 et le livre de la honte, les réseaux pédophiles, bon, c'est une question un peu idiote, mais bon, je vais quand même la poser. Est-ce qu'il y a eu des avancées notables contre la pédocriminalité?
C'est pas une question idiote. Juste, au fait, une petite précision, je ne travaille plus pour Off Investigation.
Mais ça, ah, c'est... d'accord. En tout cas, avant, je rajoute pour François, il fut un temps aussi.
Oui. Et puis...
Et puis Canal+, et puis...
Voilà. Et en ce moment, j'écris des fois pour le JDD, et sinon je travaille pour Tocsin.
Ok.
Et, voilà. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Il y en a eu des petites. Il y a eu l'extension de prescription à 30 ans. La Civise a quand même permis, à défaut qu'on prenne en compte ses préconisations, a quand même permis de faire un bilan et de donner la parole à beaucoup de gens, ce qui a permis une forme de prise de conscience dans certains milieux. Voilà.
Ben si, je remarque quand même une chose, c'est le champ lexical. Autrefois, en 2001, on disait les réseaux pédophiles. Aujourd'hui, on assume pédocriminalité.
Oui, bah oui, parce qu'il y a eu une discussion là-dessus. Pédophile, ça veut dire en fait qui aime les enfants, et c'est ce que revendiquaient d'ailleurs les pédocriminels. Donc, pour lever cette ambiguïté-là et bien poser que en fait, c'est pas du tout des gens qui aiment les enfants, c'est des gens qui aiment se faire plaisir avec des enfants, ce qui n'est pas du tout la même chose, et ça fait pas plaisir aux enfants du tout. On a pris ce terme-là est rentré dans les pratiques en fait pour bien poser que c'est une criminalité, c'est interdit. D'avoir des relations sexuelles avec des enfants, c'est interdit, la traite sexuelle des enfants. Enfin, tu remarques, la traite humaine est interdite en général. Enfin voilà, c'est même pas une délinquance, c'est une criminalité, c'est-à-dire que un viol d'enfant, c'est un crime, et c'est normal parce que les conséquences sont absolument cataclysmiques pour la personne toute sa vie. Il y en a qui se tuent, il y en a qui en meurent. En tout cas, il y en a qui développent des syndromes post-traumatiques extrêmement sévères qui leur ruinent la vie sur des fois c'est des nids durant. Donc ça impacte gravement leur avenir, donc quelque part le nôtre aussi, parce que c'est un lieu commun de dire que les enfants sont notre avenir, mais c'est un lieu commun qui est vrai.
Bien sûr, mais ce livre, voilà, c'était quoi? C'est un livre de témoignages. Tu es parti voir des victimes, des associations, des avocats. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tous ces gens?
Oui, tout ça, en fait, ça fait presque 30 ans que je fais ça. Si tu veux, c'est un petit peu c'est une espèce de bilan. 25 ans après la sortie du livre de la honte, mais j'avais déjà commencé à enquêter avant sur le sujet. Donc, effectivement, je raconte ce qui se passe à travers des témoignages qui sont emblématiques d'un des problèmes, c'est-à-dire que derrière chaque histoire que je raconte, en fait, il y en a des milliers. Et donc, oui, j'ai rencontré bien sûr des familles de victimes, des avocats, des médecins, enfin des professionnels de l'enfance.
Et on voit que ça, c'est tous les milieux,
aussi.
Toutes les classes sociales, enfin, c'est partout. Tiens, je prends cet exemple de Anne Boudonneau violée par un pédopsychiatre.
Oui.
C'est fou quand même. Dépression, elle va voir un psychiatre violé. Enfin, je veux dire, on est dans un problème beaucoup plus important que le grand public ne le pense.
Ah oui, et puis alors, par exemple, si on prend Anne, elle a essayé de lancer l'alerte rapidement. Elle a commencé à en parler d'abord autour d'elle. Après, elle a alerté le Conseil de l'Ordre des médecins qui n'a rien fait du tout, qui l'a envoyé paître. Ça lui en a fichu un tel coup que bon, bah, elle a laissé le temps passer. Quand elle a pensé, parce que bon, elle était très jeune après, hein, quand elle a pensé à saisir la justice, on lui a dit que c'était prescrit. Pour, in fine, ce pédopsychiatre qu'elle a accusé a fini par être condamné. Il a fait d'autres victimes et il a fini pour être condamné pour d'autres victimes. Donc pour elle, c'était trop tard, c'était prescrit. Et en attendant, pas aussi parce qu'on ne l'a pas écouté, eh ben, y a eu d'autres victimes.
Mais on a l'impression que ces pédocriminels, pour la plupart, enfin, beaucoup d'entre eux, en tout cas, sont protégés. On a l'impression, parce qu'il y avait aussi le Squarneck, il y a d'autres affaires où il y a des réseaux derrière, parce que là aussi, c'est pareil. On a l'impression aussi, en lisant le livre, qu'on a affaire à un réseau, à des réseaux pédocriminels qui sont puissants.
Oui, alors... Bon, déjà, il y a des gens qui sont puissants. Tu parles de l'affaire Le Squarneck. Le Squarneck, c'est un chirurgien. En 2005, il est condamné pour détention de documents pédopornographiques. Pour autant, ça n'émeut personne. C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre décide, le Conseil de l'Ordre départemental décide à l'unanimité, moins une abstention, même pas une abstention, que ce n'est pas une enfreinte au code de déontologie. Parce qu'il s'en cache même pas, hein, de sa condamnation. Les hôpitaux l'embauchent quand même. Donc, alors que on sait. Il a des confrères qui essayent de lancer l'alarme parce que quand même ils le trouvent bizarre, ça fait rien du tout. Toute la chaîne se renvoie la balle, enfin je veux dire, jusqu'au ministère. Les arsons, ça fait rien. Le ministère, ça fait rien. Le bilan de l'opération, c'est que des années plus tard, il viole sa petite voisine. Les parents portent plainte. Il y a un premier procès aux assises où il va être condamné pour le viol de cette gamine et des enfants de son entourage. Et surtout, lors de la perquisition, les gendarmes vont découvrir notamment... Bon, déjà qu'il vivait dans un endroit absolument dégoûtant. Enfin, le type avait décidé de laisser complètement tomber l'hygiène. Donc, il ne se lavait plus. Chez lui, c'était un taudis immonde. Il y avait des poupées d'enfants réalistes. Donc, il y en avait partout. Et surtout, il y avait évidemment des documents pédopornographiques. Mais surtout, il y avait un journal. Il tenait un journal avec où il racontait ses exploits. Voilà, où il racontait ce qu'il faisait. Et le bilan de l'opération, c'est qu'il a fait des centaines de victimes. Et donc, il y a eu un deuxième procès où il a été condamné pour des centaines de victimes. Il y avait, je crois, 290 parties civiles à ce procès-là. Il y en a qui n'avaient pas eu envie de se constituer partie civile. Il y en a d'autres à qui on a opposé la prescription et donc... qui ont témoigné comme témoins, ce qui d'ailleurs est absolument odieux, comme a dit celle qui l'a représentée, Nathalie Buquet de l'association Innocence en danger, pour pas la citer. En fait, c'est comme s'ils avaient été témoins de leur propre tragédie. On leur demande de jurer, enfin bref, c'était affreux. Et il y a une nouvelle enquête qui a été ouverte pour aller chercher d'autres victimes, parce que d'abord il a reconnu qu'il n'avait pas tout écrit dans son journal. Ensuite, il manque un an. Et puis surtout, on s'est rendu compte que les enquêteurs n'ont pas été cherchés dans les fichiers de la Sécurité sociale pour voir toutes les personnes qu'il avait opérées, notamment les enfants. Il n'y a eu aucune mesure d'éloignement. Donc le bilan, c'est des centaines de victimes. Donc il y a effectivement un réseau de médecins, d'ailleurs j'en parle dans le livre. Ceci dit, une des raisons aussi pour lesquelles là, on a fermé les yeux sur la dangerosité du type, c'était que, c'est que la chirurgie, c'est une spécialité qui est assez rare. Il y avait aussi un anesthésiste dans le même hôpital qui pratiquait, qui a aussi eu des soucis parce que, enfin, avec la justice pour pédocriminalité. Donc c'est sûr que anesthésiste plus chirurgien, c'est quand même pratique. Parce qu'en fait, lui, il violait les gamins quand ils étaient soit endormis, c'est pour ça qu'il y en avait qui se rappelaient pas bien, qui se rappelaient pas, soit quand ils étaient dans le potage. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont compris quand la police est venue les voir, il s'avérait qu'ils étaient des victimes du chirurgien, ils ont compris pourquoi ils allaient mal depuis l'opération. Pourquoi d'un seul coup il y avait une espèce de bascule et que ça n'allait pas bien du tout. Ils avaient développé des tas de symptômes. En plus, il y avait une phobie de la blouse blanche. Enfin, il y avait plein de choses. Et d'ailleurs, les experts ont dit, mais même si la mémoire se rappelle pas, le corps se rappelle, lui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on était plus ou moins inconscient qu'on se rappelle complètement de rien du tout. Mais une personne comme ça, c'est aussi parce que si c'est difficile à trouver un chirurgien, et si on ferme la plateforme chirurgicale, ça implique souvent la fermeture de l'hôpital. Donc, bien sûr qu'il y a...
Donc il y a des intérêts, on va dire, communs. Voilà, tous en ont.
Voilà. Donc, il y a des réseaux, il y a une pédocriminalité organisée, il y a des réseaux organisés, mais par ailleurs, on peut pas affirmer par contre que c'est une espèce de grand réseau hiérarchisé comme ça avec une tête. Non, c'est des intérêts qui se rejoignent à un moment ou un autre, avec d'ailleurs du coup des pédos de X et X milieux qui vont se croiser à un moment ou un autre, et sinon il y a des verrous.
Mais t'as parlé toi à l'époque en 2001 de réseau pédophile.
Oui.
Donc ça veut dire que et de lobby aussi. T'avais parlé aussi à l'époque de lobby.
Ah mais
il
y a lobby. Toujours.
C'est-à-dire qu'il y en a toujours. Mais quand ce qui dit lobby dit aussi que eh bien ils font ils travaillent sur les lois. Politique, sur...
Bien sûr qu'ils essaient...
Ça veut dire que quand même, il y a des gens qui s'organisent afin de légiférer
et de
s'entraider.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Simplement, on ne peut pas imaginer que... Voilà, il y a un réseau pyramidal, un énorme réseau avec un big boss. Voilà, c'est avec...
Mais les réseaux avec big boss, ça c'est le cinéma, c'est Hollywood. Je pense que même dans tous les autres domaines, ça se passe pas comme ça.
Il y a une criminalité organisée, il y a des réseaux, mais c'est plus des organisations comme ça qui vont se croiser à un moment ou à un autre éventuellement. C'est ça. Et effectivement, bien sûr qu'il y a un lobby qui essaye... entre autres, d'influencer les lois. Bah d'ailleurs, c'était très visible dans les années 70-80, avec les pétitions dont on a pas mal parlé, notamment dans Libération. Il y a eu la lettre ouverte à mon juge, c'était en gros la Libération et Le Monde. Il y avait d'ailleurs eu une lettre qui avait été envoyée à la commission des lois, pour dépénaliser les rapports sexuels, les relations sexuelles entre adultes et enfants, sinon au moins pour faire baisser la majorité sexuelle à 13 ans, c'est-à-dire revenir avant 45, la majorité sexuelle étant, la définition, c'est l'âge à partir duquel on peut valablement consentir. Ce qui veut dire qu'à contrario, en dessous, on ne peut pas valablement consentir.
Dis-moi, tu es quand même assez sévère, on va dire, avec nos contemporains. Pourquoi ?
Parce que moi, à titre personnel, ça fait bientôt 30 ans que j'alerte. Et que, déjà, je suis surprise de la surprise avec laquelle est accueilli ce livre, les commentaires que j'ai des gens qui le lisent. Il y a une stupéfaction qui me fait comprendre que la dimension, l'ampleur du problème, la gravité du problème est encore très largement sous-estimée. Que on a encore tendance à prendre des affaires comme ça qui vont sortir ponctuellement dans la presse pour des faits divers, tu me diras, elles sont présentées comme des faits divers, donc ceci explique aussi peut-être cela, mais c'est-à-dire un peu des exceptions remarquables. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont sortis, notamment avec la Civise, où on parle de 160 000 enfants par an qui sont violés, enfin, ou agressés sexuellement, soit un enfant toutes les 3 minutes, ce qui est quand même absolument catastrophique. Et le chiffre est probablement sous-estimé, puisque compte tenu de l'omerta et du nombre de victimes qui ne parlent jamais, même au niveau de l'Union européenne, on a parlé d'un enfant sur 5 qui va être victime d'une forme d'agression sexuelle. Donc on voit bien que c'est un phénomène absolument massif. Et en fait, pour autant, on fait rien, quoi. Enfin, on fait.
C'est quoi,
on fait, bah, pas grand-chose. Franchement, vraiment pas grand-chose. Il y a eu, bon, voilà, dans les progrès, il y a une nouvelle institution spécialisée, l'Office des mineurs, donc, qui est donc une institution policière qui a été créée. Au passage, à la création, ils étaient plus de 2 fois moins que ce qui était prévu au départ. Et même aujourd'hui,
2 fois moins.
Même aujourd'hui, ils ne sont pas encore le nombre qu'il était prévu.
Oui, mais regarde,
qu'il soit.
Moi, je vais te dire un truc. C'est peut-être ma marotte, et bon, c'est comme ça. Quand un président de la République qui a été détourné par une dame, quand il y a ce couple qui est mis en avant, et donc on met en avant cette légitimité, ça veut dire que ce couple est légitime, ça veut dire que la situation qu'ils ont vécue est légitime, ça n'a choqué personne. Et ben, quand en la tête de l'État on a cette légitimité, ben forcément, pour le coup, le ruissellement là il fonctionne, et bien tout le reste de la société trouve légitime ce type de rapport.
Ben oui, non, mais d'ailleurs je l'écris, hein. Moi, moi j'ai toujours été très clair là-dessus. Malgré l'énorme battage et enfumage médiatique quand même, hein, je veux dire, on a romancé l'histoire à outrance au début dans des tas de médias, une espèce de Roméo et Juliette ou je sais pas quoi, sauf que Roméo et Juliette c'était 2 adolescents, là il y en avait qu'un seul qui était adolescent, l'autre était une mère de famille, voilà, qui pourrait d'ailleurs aurait pu être sa mère aussi, d'ailleurs il était dans l'école de sa fille. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu arriver ce couple au sommet de l'État, je me suis dit, là, ça, on est reparti pour 5 ans, puis finalement 10 ans, où il va pas se passer grand-chose, parce que c'est vrai que le message qui est envoyé est absolument désastreux.
Mais on a eu, regarde, je vais te donner un exemple, on a eu à Marseille un fait divers, enfin pas un fait divers, un fait, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, où une mère de famille va voir la police en disant, voilà, mon fils de 15 ans a dorénavant des relations avec un détournement de mineur de mon fils de 15 ans avec la voisine qui a 45 ans. Et il a d'ailleurs fait un enfant.
C'est plus qu'un détournement.
Voilà. Et la police lui a dit, écoutez, on s'en fout, quoi.
Oui, alors il y a une différence. Il y a une différence entre la voisine et la prof. C'est que la majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Alors qu'au moment de la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron,
c'est vrai qu'à 14.
Non, mais c'est même pas ça, parce que c'est que la majorité sexuelle c'était 15 ans, mais c'était 18 ans pour les personnes ayant autorité.
Ah, c'est vrai.
Et les profs en font partie. C'est-à-dire que pourquoi je dis qu'il y a le message qui est envoyé est désastreux. C'est parce que c'est un message d'impunité qui est absolument désastreux. Un message aussi de justice de classe, parce que je pense que ça se serait pas, dans d'autres milieux, ça se serait probablement passé différemment. C'est ça.
Oui, mais
et
regarde,
attends. Et la loi, il faut souligner, parce que c'est quand même passé extrêmement inaperçu. Je me suis rendu compte que même des députés ne s'étaient pas rendu compte de ce qu'ils votaient. Cette extension de majorité à 18 ans pour les personnes ayant autorité, depuis la loi de 2021, elle n'existe plus.
Ah bon ?
Non, ce n'est plus que pour les cas d'inceste.
Ah bah c'est une sacrée nouvelle, je ne savais pas.
Ben voilà. Et comment est-ce qu'ils ont fait ? Et pourquoi d'ailleurs il y a des députés qui s'en sont pas rendus compte ? Et je sais parce que j'ai posé la question à des députés.
Ouais.
Ils m'ont dit, ah bon, mais comment ça se fait pas comme toi ? En fait, on n'a pas demandé de façon positive aux députés d'enlever l'extension de majorité sexuelle à 18 ans pour les personnes ayant autorité. Simplement, on a profité de la loi, parce que la loi de 2021, c'était aussi une loi sur ce qu'on disait sur l'inceste. C'est-à-dire que les victimes d'inceste demandaient depuis longtemps que la spécificité de leur situation soit reconnue, puisque la victime d'inceste, effectivement, est dans une situation particulièrement terrible, puisqu'elle a vraiment personne vers qui se retourner. Les gens qui sont censés la protéger sont eux qui l'agressent et qui la violent. Donc, ça ne change rien pour les prédateurs. On a inscrit le nom l'inceste dans le code pénal, ce qui ne change absolument rien pour les prédateurs, puisque de toute façon, le crime, le viol par ascendant, était déjà une circonstance aggravante avant. Mais voilà,
et donc là, ils ont inscrit.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prévu cette extension de majorité sexuelle pour les cas d'inceste. Très bien. Sauf qu'ils n'ont plus...
En enlevant tout le reste.
Ils n'en ont plus parlé. Donc... L'extension de majorité sexuelle, c'est pour les cas d'inceste. Donc comme le droit pénal est d'interprétation stricte, si on parle que des cas d'inceste, ça veut dire que ça enlève les autres. Et donc, on a créé une espèce de zone grise où, quand la personne a autorité entre 15 ans et 18 ans, c'est pas autorisé quand même, mais c'est un petit délit, c'est une atteinte sexuelle avec une petite peine, une prescription courte, et surtout, par-dessus le marché, la cerise sur le gâteau, c'est que ça jette un flou sur la notion même, la définition même de la majorité sexuelle, dont certains essayent de se débarrasser depuis longtemps. Alors qu'il faut bien se rendre compte que même, donc la loi de 2021 a réaffirmé la définition de la majorité sexuelle, en gros en disant un rapport sexuel, une relation sexuelle en dessous de cas par un majeur, avec un mineur de 15 ans, s'il y a pénétration, c'est un viol. On a quand même rajouté un bémol, il faut qu'ils aient au moins 50 différences de différence. Mais... parce que, ce qui en fait était le cas, simplement c'est que les juges n'appliquaient plus la loi, parce que c'était le cas depuis 1945, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand la loi avait inscrit par surprise, contrainte, violence, etc., en fait, ils cherchaient à définir les cas où il n'y avait pas de consentement. D'ailleurs, la France a signé le traité d'Istanbul qui disait qu'il fallait un consentement entier, conscient, etc. Enfin, c'était, et dans la jurisprudence, on parlait du consentement, quoi. Les juges n'appliquaient plus la loi. Mais là, voilà, on a jeté un flou sur cette notion de majorité sexuelle, mais... Les personnes après, d'ailleurs, moi je me suis dit c'est pas possible, quoi, après tous les scandales, les coachs sportifs dans le cinéma, bah justement les médecins, les y a des magistrats,
mais tout ça c'est fait exprès, tu penses bien. Là, tu parles de gens qui font partie d'une élite entre guillemets, bon, élite bien entendu, mais les élites du cinéma, le coup présidentiel, etc., ou même l'éducation nationale, bon, on fait pas partie d'élite, mais ça reste quand même une forme de l'éducation nationale, c'est genre une grande famille d'éducation nationale, tu vois. Tout se cache, c'est un peu comme l'église, ils se cachent un peu tout. Je veux dire, les affaires ne sortent pas. Donc, tous ces gens-là, j'imagine, aidés par les syndicats, etc., se sont soutenus afin que. Parce que c'est fait exprès. Mais je peux pas croire.
Je ne peux pas croire
que le législateur a fait ça pour ne pas.
Non, mais les gens. Les gens, il y a des gens derrière.
Je crois pas que c'est de manière du législateur, quoi.
Non, mais il y a des gens qui, derrière, je veux dire, quand ils ont élaboré cette loi, bien sûr qu'ils savaient ce qu'ils faisaient.
Ben, évidemment.
Par contre, il y en a qui n'ont pas su ce qu'ils votaient. Ils n'ont pas fait attention. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont élaboré la loi, qui ont misé sur l'absentéisme, ou le manque de compétences, ou le manque de consciencieux des députés, et ils ont eu parfaitement raison.
Laurence, y a ce truc-là, tu les as vus, les députés?
Oui, il y a des fois, justement, on les voit pas beaucoup.
Non, mais ceux que tu vois, tu les as vus?
Oui, il y en
bon,
a.
Bon, ils sont pas, c'est pas fortiche, hein.
Et pour parler de l'éducation nationale, je souligne que, donc, à l'automne dernier, pour les professionnels de la petite enfance, crèche, tout ça, il y a encore une réglementation qui est sortie, donc où il leur faut un certificat d'honorabilité. Eh bien, dans le texte, les membres de l'éducation nationale n'étaient pas prévus. Ce qui est quand même fâcheux, parce qu'ils travaillent toute la journée avec des enfants. Il n'y a pas que les professionnels de la petite enfance. On sait... qu'une des professions des pédocriminels, et c'est évidemment les professions qui les mettent en contact avec les enfants. Mais ce n'était pas prévu pour l'éducation nationale. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, il y a Sarah, elle, Harry, je n'arrive jamais à me rappeler de son nom.
L'ancienne ministre de Macron. Non.
Oui, oui, l'ancienne.
Qui a gagné, je crois, à Nantes. Bon, je vous parle.
Voilà, en fait, maintenant, qui défend des enfants, enfin bref, qui demande, d'ailleurs, c'est salué par les associations, que ce certificat d'honorabilité soit imposable et qu'il y ait un contrôle sur toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, y compris les membres de l'éducation nationale. Oui, merci, quoi.
Bon, mais là, au vu de ce que ressemble l'Assemblée nationale, je pense que ça va prendre un peu de temps.
C'est-à-dire que surtout, il y a d'autres priorités. Voilà.
En tout cas, j'ai l'impression que l'enfant n'est pas la priorité. Il est un peu le parent pauvre des politiques. D'ailleurs, on peut faire l'analogie avec le Covid, par exemple. On a vu quand même qu'on a martyrisé les enfants aussi.
Mais bien sûr. Non, mais Amélie, c'est évidemment que c'est le parent pauvre. Des fois, je dis alors parce qu'on dit oui, non, mais pas tout le monde. C'est vrai, pas tout le monde. Mais à l'aune de ce qui est fait, mais les gosses, tout le monde s'en fout, quoi. Vraiment. C'est les moyens sont complètement indigents. Des années, il y a eu par exemple une situation préoccupante dans l'éducation nationale. Il faut pas croire que l'histoire du périscolaire elle est nouvelle. Il faut pas croire que c'est qu'à Paris. Il y a des associations qui dénoncent ça depuis des décennies.
Mais regarde, je vais te poser une question. Justement, je pense que c'est aussi pour ça, hypocrisie française. On a 75 ou 200 périscolaires, je ne sais plus exactement, sur Paris, qui sont des pédocriminels.
Oui.
C'est quand même pas rien. Bon, dont dans des grands lycées du 7e, collège. Ouais. On a eu ce scandale entre les deux tours, des municipales. On sait qu'il était au courant. Enfin bref, on sait tout ça. Malgré ce scandale, et majoritairement, alors qu'il y a une triangulaire, c'est à se demander si en tout cas les Parisiens, on va dire les Parisiens, en ont quelque chose à faire de leur môme.
Et enfin, ceux qui ont été votés, parce qu'il y a aussi des gens qui sont tellement désespérés de tout qu'ils ne vont plus voter.
Oui, mais,
et puis l'offre politique est tellement pas satisfaisante qu'on en a marre de voter contre la peste et le choléra. C'est
oui, mais
autre
à
chose.
Paris, on préfère voter pour quelqu'un qui n'a pas mis en danger nos mômes. Enfin, je sais pas. Il faut arrêter de nuire.
Ah oui, non, mais de toute façon, évidemment que la cause de l'enfant, c'est pas la pierre d'ajustement des politiques. Des politiques publiques, quelles qu'elles soient. Enfin, je veux dire, c'est démontré depuis des décennies et c'est effectivement une des raisons pour lesquelles le livre s'appelle Pédocriminalité, l'hypocrisie française. C'est parce que, au bout du compte, l'intérêt supérieur de l'enfant, on n'en tient pas compte, et que l'intérêt des adultes passe toujours avant, dans à peu près tous les milieux. Et moi, je me rappelle déjà, j'en parle souvent parce que c'était un gros traumatisme, d'une décision de justice, donc où il y avait un instituteur qui était un enseignant, qui était condamné pour des actes pédocriminels, et il y avait marqué noir sur blanc dans le jugement qu'on n'inscrirait pas ça à son casier, parce que compte tenu de sa profession, ça pouvait lui nuire et que ça constituerait une double peine. C'est-à-dire, en gros, la position de la justice était « Bon, comme il va déjà avoir une peine pénale, on ne va pas en rajouter une en lui posant des problèmes dans son boulot. » Pardon, mais moi, comme mère de famille, précisément parce qu'il était enseignant, il fallait l'écrire en rouge dans son casier, l'inscrire au fichier, le stabiloter en rose et envoyer tout ça au rectorat. Ce qui n'aurait même pas forcément fait d'ailleurs quelque chose, parce que il y a eu des circulaires, alors de temps en temps il y a un scandale de pédocriminalité à l'école avec quelqu'un qui était connu, donc on a la circulaire royale qui dit attention, il faut faire quelque chose, la circulaire Taubira après l'histoire de Villefontaine qui d'ailleurs était plutôt moins ferme que la circulaire royale, de toute façon c'est appliqué pendant 2-3 ans puis après on revient... Enfin, ça revient comme avant. Et c'est pareil, il y avait une autre affaire. C'était un type, il venait de purger un peu plus de 2 ans de prison. Donc toujours pareil, un enseignant en Angleterre pour agression sexuelle sur deux gamines. Il revient en France, donc il sort de prison. Il y a une réunion au rectorat pour savoir si on va le réintégrer à l'école en France ou pas, eh ben figure-toi qu'on l'a fait. On l'a fait, c'était ça, je l'avais écrit dans mon précédent bouquin sur la question, pas le livre, enfin, mon avant-dernier livre, voilà, le précédent sur la question des droits et des enfants. Ça avait été un peu, alors, de toute façon, les Anglais, ils exagèrent un petit peu avec ce genre de délinquance, ils ont la main un peu lourde et puis ils en font des tonnes, quoi.
C'est dingue. Alors, commentaire d'un auditeur. Après 240 ans d'évolution de la fonction économique matérialiste au pouvoir politique comme référence suprême, la loi du marché, n'est-il pas normal que même les enfants ne deviennent que de la marchandise sur le marché du sexe? Comment arrêter les crimes en gardant les causes?
Est-ce que c'est normal que les enfants deviennent des marchandises? Non, pardon. Après, effectivement, il y a de la traite humaine. C'est pas nouveau, c'est vrai. Mais je veux dire, je ne peux pas me résoudre à ça. Et je veux dire, loi du marché ou pas loi du marché, on peut peut-être quand même faire une différence entre des objets et des gosses. Qu'il y ait une concurrence effrénée, je sais pas, sur la vente des voitures, c'est une chose. C'est pas pour autant qu'on peut tolérer qu'il y ait une traite sexuelle des enfants. Enfin, je veux dire.
Bien sûr. Laurence Beneux, pédocriminalité, l'hypocrisie française, au Cherche Midi. D'ailleurs, il faut féliciter le Cherche Midi parce que c'est quand même une grande maison d'édition qui publie sur la pédocriminalité. Une maison d'édition en plus de la rive gauche de Paris. Dernièrement, tiens, on a eu un témoignage d'une jeune femme. Parce qu'elle a été victime de viols répétés par le fameux gang de la rive gauche de Paris, des intellectuels, des gens que l'on connaît.
C'est d'ailleurs intéressant parce que elle parle des rituels. Elle en parle. Alors, il y en a qui ont dit bon, j'ai vu dans les journaux, c'est décrit des mises en scène macabres, enfin quelque chose comme ça. Pardon. Enfin, les rituels, ça fait 25 ans que j'essaye d'en parler. J'ai écrit d'ailleurs un dossier dans l'envers des affaires de Carl Zéro, mais il y avait déjà eu, il y a longtemps, un documentaire, une enquête de Pascal Justice, je crois que c'était Emmanuel Gagné, dans une émission qui était présentée par Élise Lucet sur France 3, il y a au moins 25 ans, qui avait créé une polémique.
Et dont elle se rappelle plus.
Folle. Il y a 25 ans. Qui avait créé une polémique folle, et jusque-là, on ne pouvait pas en parler, sans, alors là, pour le coup, se faire immédiatement traiter de fou, complotiste, conspirationniste, je sais pas quoi. Moi, j'avais fait un reportage là-dessus avec des témoignages, c'était pour une télé allemande. Parce que en France, de toute façon, ça aurait pas été possible. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être parce que c'était des enfants français qu'on pouvait le faire en Allemagne. Je suis pas sûr que si ça avait été des enfants allemands, ça serait passé comme c'était sur Satin. C'est pareil, c'était il y a longtemps. Mais moi, des victimes qui me racontent des histoires de rituels où on torture et on tue des enfants, ça fait bientôt 30 ans que j'en entends. J'en ai entendu beaucoup. J'en ai entendu des quatre coins de France qui ne se connaissaient pas, qui ne peuvent pas se concerter entre eux, puis de toute façon, pour imaginer des trucs comme ça. Enfin, et j'en ai entendu à l'étranger. Il y a eu des procès, pour le coup, à l'étranger, dans des pays anglo-saxons, dans certains États américains notamment. Et il y a des associations de victimes de crimes rituels ou de crimes pédosatanistes. Il y en a qui se réclament du satanisme, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, en tout cas, c'est des bandes de sadiques. Voilà. Bon. Donc là, on en parle avec beaucoup de pudeur parce que ce témoignage a été relayé dans la presse et même sur le service public. France Inter, je crois.
France Inter, ouais.
Donc on en parle avec beaucoup, beaucoup de pudeur. Mais enfin, on en parle. Donc, je ne sais pas si ça va donner l'idée d'aller faire une enquête sur ces, alors là, pour le coup, ces groupes de personnes qui sont extrêmement dangereux, enfin, je dis, ils torturent et ils tuent. Hein, Parce que elle s'en est sortie, il y a des survivants. Mais il y a des groupes, c'est pas ça. Ce que racontaient d'ailleurs déjà les gosses, que après ils avaient dû fuir en Suisse, je les avais vus là-bas, à Pascal Justice, on parlait, je veux dire, déjà de meurtre. Et ça, moi, j'en ai entendu. Est-ce qu'il va y avoir officiellement une enquête qui va être ouverte sur ce phénomène? Parce que c'est pareil, il serait temps, quoi. C'est... même, parce qu'on est arrivé, il y avait un point où, en général, il y a beaucoup de victimes, même si elles ont porté plainte pour viol, cet aspect-là de leur dossier, elles n'osent pas en parler. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont les défendre, qui vont leur déconseiller d'en parler, en leur disant, de toute façon, à partir du moment où vous allez parler de ça, c'est fini, vous allez être totalement décrédibilisé. On va vous dire que vous êtes cinglé, quoi.
Mais oui, mais surtout que Madame Inès Chatin, elle en parle.
Oui.
Elle dit qu'elle a 4 ans. 4 ans, c'est quand même pas rien. Et les hommes de la rue du Bac dont elle parle, c'est quand même, Gabriel Matzneff, c'est son beau-père qui l'envoie là-bas, Claude Imbert, généralement c'est un patron du Point, l'avocat François Gibault, l'académicien Jean-François Revel, et même l'évêque Jean-Michel Di Falco.
Di Falco, qui a eu des ennuis quand même.
Bien sûr.
Mais oui, alors, il y a une affaire.
C'est-à-dire que les gens, enfin, la police, on va dire les choses, la justice plutôt, bon, la justice ne va pas enquêter sur des types pareils.
Bah, il faudrait.
Oui, bien sûr qu'il faudrait, mais on le sait que dans les faits, ils ne le font pas. Sauf si ce sont des gens dangereux pour. Enfin, je sais pas, moi, il y en a un d'eux qui se présente dans la politique ou j'en sais rien et qu'il faut le désinguer. Mais sinon. C'est très rare qu'on enquête sur des gens pareils.
C'est pour ça qu'il faut une prise de conscience massive, parce que moi je pense que pour qu'il y ait une avancée notable sur cette criminalité, un enfant sur 5, je rappelle, ça veut dire que ça peut arriver, ça veut dire qu'on prend une classe de 30, il y en a 6 qui vont y passer. Hein, ça peut tomber sur les enfants de n'importe qui à cause de la faute à pas de chance. Croiser la mauvaise personne au mauvais moment, quand ça vient pas de la famille elle-même, parce que ça vient aussi souvent de la famille elle-même, de la famille qui éventuellement va après emmener ses enfants à d'autres, parce que c'est ça on dit, parce que maintenant c'est non mais la 80% de la pédocriminalité, ça se passe dans le cadre de la famille. Oui, ça veut pas dire qu'ils les gardent pour eux leurs gosses, et ils les gardent de moins en moins parce qu'ils communiquent de plus en plus. Donc, mais tant qu'il ne va pas y avoir une volonté impérative, citoyenne, des gens, que l'on fasse quelque chose et qu'on s'occupe correctement de cette criminalité-là, ça ne va pas réellement avancer. Et il faut mesurer à quel point ces gens sont dangereux. Pour revenir sur ces histoires de rituels, enfin, tu vois. Il y avait eu, c'était au début des années 80, il y avait eu un scandale, ça s'appelait l'affaire du Cries. Donc c'était le centre de recherche international sur l'enfant et sa sexualité. Donc c'était censé. Il s'est avéré que c'était une plateforme de trafic de documents pédopornographiques et de gamins. Et ça avait fait notamment un gros scandale parce que c'était en Belgique, c'était dans les locaux de l'UNICEF. En Belgique. D'ailleurs, le directeur de l'UNICEF avait sauté, avait dû partir. Et donc, il y avait eu une extension, évidemment, des enquêtes, parce qu'il y avait des Français qui étaient concernés. Donc, d'ailleurs, certains ont été condamnés pour pédocriminalité. Parmi les adhérents du CRIES, il y avait par exemple l'association Le Christ Libérateur du pasteur Doucet, enfin, le patron du choral, le patron du choral qui a. Donc était un centre où des enfants servaient de vivier pour des pédocriminels qui venaient de. D'ailleurs, il y avait eu de grosses personnalités qui avaient été mises en cause dans ce dossier. Enfin bref, d'ailleurs lui il est sorti de prison, puis après il a repris la tête du choral. Enfin bref, dans cette affaire du Cries, les personnes, les membres du CRIES qui ont été ennuyés par la justice parce que accusés de viol sur mineurs, enfin voilà, qui ont eu une affaire par ailleurs, parce que y a eu réellement personne qui a été directement embêté. Enfin, l'enquête française au niveau de l'affaire du CRIES a été particulièrement indigente. Donc ça a éventuellement permis de découvrir des fois de nouveaux crimes, mais enfin, ça n'a pas donné grand-chose. Absolument toutes les affaires judiciaires où une personne était membre du CRIES dedans, un des agresseurs était membre du CRIES, était une affaire où il y avait des crimes rituels. Ça n'a pas forcément été dit, d'ailleurs ça n'a pas été dit, parce que sinon il n'y aurait pas eu condamnation, lors des procès, mais à moi des victimes me l'ont dit.
Mais qu'est-ce que c'est crime rituel exactement? Parce que quand on dit rituel, on a toute la machine hollywoodienne et tout qui nous rentre dans la tête et on a l'impression de voir des films, des types à cape,
Ouais.
etc. Qu'est-ce que c'est exactement dans la vraie vie, les
Alors,
crimes rituels?
moi j'ai eu plusieurs formes de témoignages, hein. Il y avait par exemple, il parle de gens soit qui ont des capes ou qui ont des
Ah, donc ça,
masques.
c'est pas Hollywood, c'est la vérité.
C'est la vérité.
D'accord.
C'est la vérité. Avec des gosses qui sont assis en rond autour. Et puis éventuellement, il va y en avoir un au milieu, qu'on va torturer à mort. Et après, les adultes vont violer les gamins. Mais il y a plusieurs genres de cérémonies. Il y en a qui, avec moi j'avais une gamine qui me disait, et puis en même temps quelqu'un qui psalmodiait, va le long des rives tranquilles, je sais pas quoi. Il y en a une autre, donc où c'est il buvait le sang du petit Jésus. Bon. Non, pendant le rituel.
C'était quoi? C'était du vin ou
Non,
c'était un
je
enfant
ne pense pas que c'était du vin. Mais ouais, bon, donc voilà, c'était il avec des fois des cérémonies avant où on terrifiait les gosses, même ceux qui les parce qu'en général ceux qui sont emmenés par leurs parents survivent.
Attends, comment ça, on n'est pas leurs parents? C'est-à-dire que leurs parents aussi les amènent dans ces rituels?
Oui, c'est pour ça que je te disais. Après, ça c'est pas parce que ça commence à intrafamilial, voilà.
D'accord.
Donc il y en a là où, qui étaient emmenés par leurs parents, mais il y a plusieurs types de cérémonies. Et puis, il y a plusieurs types. Alors, il y en a qui parlent de satanisme, il y en a d'autres qui n'en parlent pas. Moi, je me rappelle donc d'une ancienne victime. Là, pour le coup, c'était soi-disant du satanisme. Alors, ce qu'on expliquait, parce qu'il y a une différence, il y a les pontes, et puis après, il y a les petites mains, et qui avec un vivier qui est généralement plus ou moins notre quart monde, ou en tout cas des gens qui vont être défavorisés, qui des fois vont être peu instruits. Bon, un autre vivier étant évidemment les endroits où les enfants sont placés. Mais là, c'était donc familial, et donc il y avait une espèce de catéchisme dans ce groupe-là, du satanisme, où en fait, le satanique avait 6 vies pour devenir digne du monde de Satan. Voilà. Et donc, pour devenir digne du monde de Satan, c'était une espèce d'idéologie de liberté complète, absolue, je ne sais pas quoi, de supra-homme, de tout. Hein. Donc, pour atteindre ce niveau de liberté-là, il fallait être capable de faire n'importe quoi, tout. Il fallait se libérer du carcan de la morale judéo-chrétienne, enfin de la morale en général, et donc être capable de faire les pires atrocités. Et si au bout de 6 vies, t'étais pas devenu digne du monde de Satan, tu tombais dans le monde de l'oubli. Et alors là, le monde de l'oubli, alors là, ils en avaient très très peur, le monde de l'oubli. Voilà, tu vois, c'est un exemple parmi
Donc par
d'autres.
conséquent, pour ne pas tomber dans ce fameux monde de l'oubli, ces criminels allaient, j'imagine, très très loin dans leurs actes, quoi.
Oui, alors ça, c'était ce que croyait. Aussi, là, en tout cas, ce qui était dit à ces familles qui amenaient aussi leurs gamins, enfin, qui allaient en chercher, qu'ils pensent ça, les gens qui venaient après, qui venaient de l'extérieur, pour les. Ça, j'en sais rien. Je sais, voilà. Mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a où c'est. C'est pas, c'est, en tout cas, on m'a pas rapporté ce genre de choses. On m'a pas dit que c'était luciférien ou sataniste. Des fois, oui, des fois, non. Il y a un truc qui est commun, par contre, dans ce qu'on va appeler les crimes rituels, c'est effectivement, il y a une espèce de protocole avec des habits et des vêtements particuliers et des atrocités qui sont commises, entre autres, sur des gamins. Et quels sont tout est utilisé. Hein.
Et quel est le profil des gens qui pratiquent cela?
Bah, alors, ça, c'est déjà plus compliqué. Moi, dans ceux qui les amenaient, c'est assez varié. Enfin,
oui, ceux qui les amenaient, c'est varié. Mais ceux qui portent ces vêtements et qui pratiquent les rituels, eux.
Bah, c'est difficile parce que justement, ils sont masqués. Et
c'est-à-dire qu'on a les victimes, mais on n'a pas les bourreaux, c'est ça?
Ouais. Alors, des noms, en fait, on m'en a donné, mais là, c'est des noms que je ne peux pas donner sans preuve.
Bien sûr. Non, il ne faut pas donner de noms.
Mais en tout cas, parce qu'il y a certaines. En tout cas, il y a, dans certains cas, ça va vraiment jusqu'au sommet des États. Je veux dire, si ce qu'on m'a dit est vrai. Ce n'est que des témoignages, puis moi je suis pas flic. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir.
Mais ce qui est fou, c'est la fascination de ces gens de pouvoir ou des gens d'argent par rapport à cette figure dont tu as parlé, luciférienne.
Je te dis, il n'y avait pas que ça, hein, mais ouais, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, quand t'as tout, tu t'emmerdes tellement que tu vas. Je sais pas. Je n'ai pas d'explication.
On va continuer cette discussion, mais avant ça, le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Soutenez Radio Courtoisie. Courtoisie, c'est vous les patrons de la radio, c'est vous qui nous aidez à être libres et indépendants dans les grands médias. Ce sont les annonceurs qui choisissent les sujets à traiter et surtout à ne pas traiter. Ici, nous parlons de tout grâce à vous de continuer à soutenir Radio Courtoisie. Je suis avec Laurence Beneux, auteur du livre « Pédocriminalité, l'hypocrisie française » au Cherche Midi. Donc oui, il y a cette fascination.
Les crimes, d'ailleurs, je précise, les crimes rituels, je l'aborde à peine dans ce livre, de temps en temps. J'en avais parlé un petit peu plus dans mon précédent livre sur la question. Mais je l'aborde à peine, tout simplement parce que il y a déjà beaucoup de choses à faire, même avant, y compris en droit commun, enfin qu'on prenne déjà un peu conscience de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que il faut savoir que si par même condition de température et de pression, tant que ça reste comme ça, si demain votre enfant se fait violer, que ce soit par un membre de sa famille ou bien à l'extérieur, il y a 1% de chance que d'obtenir justice pour lui.
1%?
Ouais.
À quoi c'est dû, le fait qu'il y ait 1%?
Difficulté de la preuve. Et ça, c'est en admettant qu'il en parle. Et qu'on dépose plainte.
C'est-à-dire qu'un enfant peut en parler 15, 20 ans ou jamais.
Bah, c'est-à-dire, en tout cas, sur les plaintes, quand il y a 1% de condamnation pour viol, enfin, il y a 1% des viols qui sont condamnés.
Est-ce qu'il y a eu aussi un changement de paradigme avec M. Dupond-Moretti, qui a martyrisé ses mômes au tribunal et dont on doute plus qu'autrefois de la parole?
Alors, c'est vrai qu'on dit... On dit que l'affaire Doutreau est... Bon, c'est vrai qu'on brandit un peu l'affaire Doutreau comme un... Après, dans les prétoires, on la brandit un peu comme un épouvantail pour dire « Oh là là, attention, les enfants mentent. » Alors que les enfants Doutreau n'avaient pas menti. Hein. Ils ont tous été reconnus victimes. Et ils ont tous été indemnisés. Je veux dire, il faudrait quand même juste rappeler ça. Donc, quand on utilise l'affaire Doutreau pour dire « Les enfants mentent », non. C'est les adultes qui disent ça qui manquent. Les enfants, ils ont été reconnus victimes. Les enfants d'Outreau. C'est sûr que ça a fait du mal. C'est sûr que, avec Dupond-Moretti, garde des Sceaux, moi, quand j'ai appris ça, j'ai cru que c'était une blague, mais non. La situation ne s'est pas améliorée. La fin de l'extension de la majorité sexuelle, la généralisation des cours criminels, versus ce cours d'assises. Donc, qui était au début un essai, ça a été généralisé. Donc maintenant, c'est les crimes où on risque plus de 30 ans, où on a l'honneur du jury, du jury populaire, c'est pour lesquels c'est assez grave. Et les crimes jusqu'à 20 ans, les victimes ne sont pas assez importantes pour avoir droit au jury populaire. Et qu'est-ce que c'est les crimes où, qui, 20 ans, c'est à 90%, c'est les crimes sexuels, mais, y compris sur les enfants.
Mais moi, je vais te dire, le problème, je le comprends et je le vois, ne serait-ce qu'à part les audiences de ces affaires qu'on peut traiter, c'est que déjà, les crimes sexuels, c'est quelque chose intrinsèquement sale dans l'esprit des gens. Dont ils ne veulent pas forcément entendre. Mais les gens, en fait, ils sont intéressés par les crimes sexuels, il faut dire les choses, hein, de Cohn-Bendit et Jacques Lang. Mais quand c'est Gérard Ducomptoir, je le vois moi-même quand je fais des audiences avec des victimes où c'est profil Gérard Ducomptoir qui viole ses victimes, j'ai personne, je n'ai personne.
Ouais. Gérard Ducomptoir a plus de chances de se faire condamner, ceci dit.
Non mais d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour que des choses intéressent la justice, il faut qu'il y ait un mouvement populaire de pression.
C'est ce que je te, me tue à te dire, c'est ce que je dis depuis le début.
Oui, mais pour qu'il y ait ce mouvement populaire de pression, il faut que ça intéresse les gens. Et le problème, c'est que c'est Jacques Lang et Cohn-Bendit qui vont intéresser.
Oui, bah le problème.
Ça, et, ou Epstein.
Oui, le
problème. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, le problème, c'est qu'il faut prendre conscience. Alors, si vraiment, en plus, il y a un. Même en étant d'un égoïsme forcené, il faut prendre conscience que les probabilités que ça tombe sur le coin du nez de quelqu'un ne sont pas petites. Et que c'est pas. Mais c'est pas seulement parce que, même en faisant très attention à ses enfants, voilà, que une femme peut se retrouver avec en fait un mari incestueux et que les chances qu'elle arrive à faire quelque chose sont extrêmement fines, qu'il y a un risque tout à fait considérable que si le gamin parle, que le gosse se retrouve placé et éventuellement placé chez l'agresseur abusé. C'est ce que je dis quand je dis qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur et de la gravité du phénomène et à quel point il faudrait mettre les petits plats dans les grands. Et par-dessus le marché, il y a une traite sexuelle qui se joue aussi à l'échelle internationale parce qu'il y a une avec Internet, par-dessus le marché, l'internationalisation de la pédocriminalité est encore plus galopante qu'avant. Donc il faudrait une coopération internationale.
Pourquoi est-ce que d'après toi, on était le 4 avril, toi et moi, à la grande manifestation contre la pédocriminalité. Bon, il y a eu un petit peu de monde, c'était sympathique, mais. Même parmi les gens de l'assistance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montraient les panneaux des visages de ces Cohn-Bendit et compagnie, tu vois, des Duhamel, etc.
Oui, mais
ça veut dire qu'en fait, le grand public, il ne veut pas. Je parle pas de ceux qui étaient présents, hein, mais parfois, il ne veut pas voir la pédocriminalité qui vient de ses rangs. Et veut voir celui qui vient de ces élites.
Oui, alors il y a peut-être aussi que eux, je sais, parce qu'ils avaient tenu des propos quelque part, ils l'avaient reconnu. Parce que ceci dit, on ne parlait de Éric Dupond-Moretti. Ceci dit, c'était pas brillant avant non plus, hein. Faut pas, voilà, c'est quelque chose qui, ça fait des décennies que c'est pas brillant. Même si contrairement à ce qu'on croit en général, les peines encourues étaient plus importantes avant, hein. On dit, machin, mais 68, la mouvance, libération, patatatata. Ça concernait une minorité d'intellectuels, et etc. Tu vois? Mais jusqu'en 1980, jusqu'à ce qu'on ait défini le viol comme étant un acte de pénétration, toute interaction sexuelle avec un enfant, avant la majorité sexuelle, c'était la cour d'assises. C'était un crime. Ça a changé, ça, seulement en 1980.
Mais c'est normal, parce qu'avant les années 80... Qui tenait la justice, c'était des gens solides nés avant-guerre.
Oui, bon, il y avait quand même eu des.
Oui, il y a des exceptions, évidemment, mais c'était quand même plus solide que les gens nés après-guerre.
Mais alors, après aussi, pourquoi est-ce qu'on va montrer donc, ce genre de visage? C'est peut-être aussi parce qu'ils ont fait des. Ils ont parlé, disons qu'ils ont été très imprudents à une époque, donc qu'ils ont dit aussi ce qu'ils pensaient, et que les gens prennent peut-être ça comme une espèce d'emblème d'impunité. Des élites, qui n'est pas fausse. Jusqu'au livre de Camille Kouchner, on ne pouvait pas parler d'élite pédocriminelle. C'était le fantasme, d'ailleurs c'était le fantasme de journaliste, le grand fantasme des élites criminelles. Tu vois, tu te faisais traiter de complotiste dans la minute, puisque ça c'est un mode de disqualification qui est employé depuis longtemps, il date pas du Covid. Hein. Et d'ailleurs, il y en a encore, même pour le dire, j'ai entendu fin 2025. Un fameux fact-checker qui était le fantasme des élites
Rudi Reichstadt, c'est ça,
des pédocriminels, je me rappelle plus, c'était Rudi Reichstadt ou Tristan
Mendel, c'est Rudi Reichstadt qui a dit que il y avait pas de victimes chez Epstein, quoi, que c'était pas reconnu victime.
Non, là moi je te parle qui avait parlé. Ah oui, oh bah alors là, on va savoir vivre le fantasme du complot, chez les complotistes, le fantasme des élites pédocriminelles. Pardon, mais après le bouquin d'abord de la famille Lagrande de Camille Kouchner, l'enquête justement des hommes de la rue du bac avant le livre dans Libération et surtout l'affaire Epstein, il faut quand même oser dire un truc comme ça. Faut quand même vraiment, vraiment être extrêmement doué pour nier les évidences sans avoir honte, quoi.
Bien sûr. Alors, une auditrice nous appelle, nous a dit, voilà, il n'est pas toujours bon de donner trop de détails, cela ressemble du voyeurisme et pourrait donner des idées à d'autres. Bon, on ne donne pas d'idées aux auditeurs de Radio Courtoisie, ne vous inquiétez pas. Comment s'est passée la manifestation du 4 avril? Ben, bon, c'est bien passé.
C'était bien, c'était sympa. C'était... Moi, il y a juste un truc avant qui m'a un peu désolé.
C'est quoi?
C'est qu'il y avait, des associations qui sont actives dans la défense de l'enfant, qui ont dit, oui, mais nous, on ne va pas participer parce que les organisateurs, en fait, moi, je venais de rencontrer d'ailleurs qu'une seule personne, hein, je ne connaissais pas exactement. Les organisateurs sont contre le programme EVARS.
Ah oui, j'ai vu ça. Ah, mais, c'est-à-dire que. Alors là,
ils ont tenu des propos sur les LGBT, on n'est pas d'accord, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que les LGBT viennent foutre là-dedans. C'est-à-dire. En fait, dans un combat aussi difficile, aussi compliqué, où on a autant de mal à avancer, on se retrouve avec des experts de guerre d'ego, des scissions entre les gens trucs qui sont
là. Ça veut dire quelque chose.
Non, mais, à côté.
Ça va bien au-delà, parce que des associations. J'ai vu leur tract. D'ailleurs, ils écrivaient en écriture là, inclusive. Donc déjà, j'imagine que c'était des associations financées par les pouvoirs publics, les mairies, etc. Mais une association qui lutte contre la pédocriminalité et qui dit « Nous sommes favorables au programme d'éducation sexuelle à l'école », excuse-moi, mais permets-moi de douter de leur probité.
Oui, alors, je vais mettre un bémol. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent sincèrement que éduquer, enfin donner une forme d'éducation comme ça à l'école va permettre aux enfants d'être mieux armés. Je pense qu'il y en a qui le pensent. Je suis absolument pas d'accord avec eux, mais je pense qu'il y en a qui le pensent. Moi personnellement, je pense que sexualiser les enfants et leur mettre dans la tête des trucs qui ont trait à la sexualité adulte, les pédos des années 70-80 en rêvaient et l'État l'autorise aujourd'hui.
Non, mais
de toute façon, attends,
que le gars de la rue y croit en se disant oui, ça peut aider. Ok. Mais que des responsables associatifs qui travaillent là-dedans, qui sont financés, dont c'est vraiment le job au quotidien, le croient, je ne peux pas. Je veux dire qu'ils soient sincères dans le sens que c'est bon pour l'enfant, ça je ne peux pas y croire. Ça je n'y crois pas du tout. Ça veut dire que ces gens-là sont pieds et poings liés avec les États, parce qu'ils sont financés par eux. Je peux dire, la mairie de Paris doit financer grave. Hein.
En tout cas, alors je me suis dit encore là autre chose, parce que moi, ça fait 30 ans que je vois des associations se bouffer la gueule entre elles, et ça me met hors de moi.
Si tu as des associations qui militent en faveur du programme sexuel, tu ne peux pas avancer dans le combat contre la pédocriminalité. C'est pas possible.
Si, tu peux avancer quand même. Tu pourrais donner des moyens aux enquêteurs. Tu pourrais exiger que les juges appliquent la loi. Tu pourrais.
Mais est-ce que tu penses sincèrement que ces associations-là, parce que j'ai vu les moyens qu'elles avaient, les visuels qu'ils ont créés sur les réseaux, parce que j'ai vu aussi ces messages, ce sont des associations subventionnées.
Peut-être, oui.
Et c'est pas peut-être, c'est ouais. sûrement. Ouais. Et donc, si elles sont subventionnées parce qu'elles croient dans certaines choses, on voit que le législateur, ben, visiblement, finance des choses, voilà, des associations un peu border. Moi, je suis sûr que oui. si tu fais une enquête pour un livre sur cette association, tu verras des trucs qui vont te faire dresser les cheveux.
Oui, bah de toute façon, moi, ça, je te dis, ça me fait déjà dresser les cheveux. Alors, c'était pareil. Et puis, les machins LGBT, et puis toutes les lettres qui vont en derrière, moi, ils m'ont perdu à prêter. Hein. Je comprends même plus. D'ailleurs, je trouve même que c'est bizarre parce que les trois premières lettres, c'était des pratiques sexuelles. Qui, entre adultes consentants, ne me pose aucun problème. Enfin, moi, à titre personnel, me pose aucun. Déjà, T, c'est plus une pratique sexuelle, c'est autre chose. Tu vois, c'est des gens qui demandent des traitements chez. Enfin, bref.
Ah oui, LGBT, ouais.
Tu vois, LGB, quand c'était juste les. Lesbiens, gays, bisexuels, en fait, on parle de pratiques sexuelles, c'est tout. Après, tous les autres, TQ, et puis je sais plus quoi. C'est autre chose, enfin, ou en tout cas, où ça englobe. Enfin, bref, de toute façon. Mais de toute façon, le truc, c'est que je ne vois pas le rapport entre ça et la lutte contre la pédocriminalité. Et que prendre ça pour aller faire une forme de séparatisme chez des gens qui, en tout cas, affirment tous militer pour la même chose, à savoir qu'enfin, on prenne des moyens efficaces pour la protection des enfants, ça me dépasse. Si certaines personnes pensent sincèrement que Evars est un de ces moyens, je ne suis pas d'accord avec eux, mais pour autant, on a un point commun, on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça au niveau de la pédocriminalité. Voilà, moi personnellement, je pense pas du tout que c'est un outil pour protéger les enfants. Au contraire, même. Au contraire, ça peut être un facilitateur pour des pédocriminels. Et puis de toute façon, c'est pas ce genre d'éducation n'est pas le problème de l'école.
Alors, auditrice nous dit, je pensais à l'affaire des balais roses. Monsieur le Troquet, président de l'Assemblée nationale à la fin de la 4ème République, était impliqué et l'affaire avait été étouffée.
Ouais, c'est. Oh, pas complètement. La preuve, c'est qu'on. On l'a. Ça s'est su. Oui, l'affaire Le Troquet, bah, ça, c'est une vieille affaire. Mais bah, après, il y a eu aussi des rumeurs sous Pompidou. Il y en a eu. Puis après, il y a eu. Et puis après, il y a eu des affaires qui ont été partiellement étouffées. C'est-à-dire que de temps en temps. Il y a trop de choses. Donc, il faut quelques condamnations. Donc, il faut des fusibles. Donc, il y a quelques fusibles qui sortent. En général, ils s'en sortent pas trop mal. Les peines sont pas trop lourdes.
On voit.
Dans l'affaire du Corral, non seulement les peines n'ont pas été lourdes, mais le directeur du centre, à sa sortie de prison 2 ans plus tard, il était à nouveau à la tête du centre, ce qui était quand même un peu fort de café. Voilà.
Mais on voit, par exemple, tiens, la dernière affaire qui est sortie, c'est l'affaire Epstein. Bon, elle a fait certes un petit boom médiatique, mais depuis, on n'entend plus rien. Je me demande même si le gars de la rue, aujourd'hui, s'en rappelle de l'affaire Epstein.
Aussi, quand même. Mais non, puis c'est surtout que l'affaire Epstein, on en a parlé essentiellement sur l'aspect financier. Machin a donné de l'argent, la fille de Lang a reçu, elle était sur le. En fait, on parle de pognon, hein, elle était dans son testament, etc. Jacques Lang qui n'a plus d'âge, il a dû démissionner de l'Institut du monde arabe.
Il habite toujours aux Place des Vosges, vous inquiétez pas, elle a pas perdu un train de vie.
Elle a dû démissionner de 2-3 fonctions. Voilà, il y a deux enquêtes cadres qui ont été ouvertes à Paris, ce qui est très inquiétant. Je tiens à souligner que une enquête cadre, ça n'existe pas, hein, ça, dans le code de procédure pénale.
C'est quoi l'enquête cadre ?
Bah justement, c'est une bonne question, puisque ça n'existe pas dans le code de procédure pénale. Personne ne l'a soulevé. Normalement, on a soit une enquête préliminaire, soit une enquête en flagrance. Voilà. Enquête. Donc, moi, je pense que c'est une forme de stratégie rhétorique pour justifier que tout va être centralisé et contrôlé à Paris. Ils avaient fait la même chose pour Zandvoort. il y avait eu, dans l'affaire de Zandvoort, il y avait eu une espèce de... Alors là, pour le coup, d'information judiciaire hypertrophiée à Paris, qui ne sait, alors qu'il y avait des procédures en cours en province, les magistrats et les enquêteurs de province n'avaient accès à aucun document, alors qu'ils auraient bien aimé, parce que ça les aurait aidés pour leur enquête. Et puis, quand tout était retombé, il y a eu un non-lieu, deux ou trois ans plus tard, avec 81 familles qui avaient dit avoir reconnu leur enfant dans les, ou leurs enfants dans les fichiers de Zandvoort, et on a eu finalement 81 non-lieux pour le prix d'un, ce qui, d'un point de vue procédural, n'existe pas. Des enquêtes cadres, je ne sais pas ce que c'est, parce que ce n'est pas prévu dans le code de procédure pénale. Et là, et par-dessus le marché, là, on est dans une situation pire, parce que pour l'instant, comme c'est des enquêtes, donc je suppose que ce doit être, s'il y en a réellement, une enquête préliminaire, ou plus probablement une enquête en flagrance, il n'y a pas de juge d'instruction qui est nommé, donc il n'y a pas d'information judiciaire, donc il n'y a pas de, personne ne peut se constituer partie civile, personne ne peut faire des demandes d'actes, personne ne peut avoir accès au dossier, et ça peut durer comme ça pendant des années. Donc on peut imaginer une situation où dans quelques années, quand tout ça sera retombé, il y aura discrètement un non-lieu et il ne se sera rien passé entre-temps.
Alors bonjour madame, monsieur, il me semble qu'au début des années 2000, Emmanuel Ratier dans Faits et Documents avait signalé que 600 personnes exerçant des professions judiciaires étaient dénoncées pour des faits pédocriminels. Ça fait beaucoup, 600 personnes déjà au début des années 2000.
Ouais, alors ça, ce fait document là, je ne l'ai pas lu, j'en ai lu d'autres. Moi, je me rappelle par contre, avant ça, non, c'était peut-être dans les années 2000 aussi, de 70 magistrats, c'était une information du Canard Enchaîné.
Le 70 magistrats pédocriminels.
Ouais.
En France.
C'était le Canard, hein, donc en général, c'est quand même des informations françaises. On n'avait pas plus. Nous, on l'avait écrit dans le livre de la honte. Je pense pas qu'au niveau institutionnel, ça ait fait grand-chose.
Bah justement, comment on travaille sur un livre comme celui-ci? Parce que c'est très sourcé, il y a énormément de témoignages. Ça doit être très compliqué comme travail, j'imagine.
Ah bah oui, c'est beaucoup.
T'as pris combien de temps à écrire ce livre? L'enquête et l'écriture.
Il y a des choses, tu vois, des fois je reviens, quelque part l'enquête ça fait 30 ans que je la fais. Alors évidemment que là il y a des éléments qui sont beaucoup plus récents. Mais les rapports de l'ONU, comment j'ai fait, je les ai lus. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi quand il y a évidemment tout ce que je constate, tous les gens que je vais voir sur le terrain. Et puis après, je suis évidemment que j'ai une veille. Je lis les journaux, les articles déjà qui parlent. Je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quand il y a des associations qui font des communiqués ou que je reçois des communiqués de presse, je vais regarder de quoi il se passe. Des fois, je vais au procès dont ils me parlent. Et puis ou des documents. Il y a eu des études européennes. Je lis l'étude européenne. C'est comme ça, tu vois. C'est un travail qui... des fois, il y a des livres sur la question. Il y a des livres que je vais lire. Je ne vais pas tous les lire parce que je n'ai pas le temps. Mais quand même, les évolutions législatives, je les suis. C'est comme ça que j'ai vu la... Pourquoi je l'ai vu, la loi sur l'inceste, que d'un seul coup, on prévoyait plus on ne prévoyait plus que les cas d'inceste ou s'il y avait un rapport sexuel, c'était un viol. Que la majorité sexuelle à 18 ans n'était plus étendue que pour les cas d'inceste. Pourquoi? Parce que j'ai lu la loi.
Oui, mais c'est un travail, je veux dire, fastidieux, parce que là, pour le coup, il y a énormément de témoignages. Oui. Il faut aller voir les gens. En plus, les gens, ils se livrent pas forcément. Ils ont les traumas. Donc, tu vois,
alors,
tout ça, comment on fait tout ce travail-là?
Alors, d'abord, c'est pareil. Il y a des gens que je connais depuis très longtemps. Donc je raconte des histoires, il y en a, c'est au fil des années, ça fait des années, comme tu dis, que je vais voir les gens. Mais si les gens veulent pas me parler, de toute façon, moi, j'insiste pas. Hein. Les gens qui m'ont parlé, c'est parce qu'ils le voulaient. C'est parce qu'ils le voulaient bien, enfin voilà.
Vous avez besoin d'une forme de libération?
Oui, ou de faire savoir, ou que leur histoire serve à quelque chose. C'est quelque chose qui est extrêmement récurrent dans les victimes, d'ailleurs. Au moins que leur tragédie parle aux autres. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu, je parle pas pour moi, je parle pour les autres. De toute façon, pour moi, c'est fait quoi. Mais pour les autres.
Comment ces gens vivent aujourd'hui
Alors, bah, ça dépend. Ça dépend où ils en sont. Bon, d'ailleurs, je veux quand même appuyer sur quelque chose. Il y a une résilience et ben, ceux qui ont vécu, il y en a qui ont vécu des atrocités, ils vivent avec. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie avec des joies, comme tout le monde. Il y a à certains stades, moi j'ai rencontré beaucoup de victimes qui me disaient « je suis morte ». On a l'impression que je suis vivante, mais je suis morte. Et je m'en remettrai jamais, je serai jamais comme voilà, je suis morte dedans, je suis morte. Et qui ont l'impression que ça va durer toujours. Moi, de ce que j'en ai vu, ce n'est pas vrai. Je veux quand même mettre une touche d'optimisme. Oui, il faut vivre avec. Oui, des fois, il y a des thérapies qui sont extrêmement longues. Mais il y a des choses à faire. Et moi, j'ai connu des personnes qui me disaient à un moment, je suis morte. Et puis, qui ont fondé une famille. Et puis, qui ont eu des enfants. Et puis, qui ont des bonheurs. Et puis, même des fois, qui continuent à se battre quand même. Qui, des fois, font des pauses. Qui ont des souvenirs qui peuvent être douloureux. Qui, des fois, ont des douleurs qui reviennent. Mais voilà. Mais qui ont une vie... Exactement comme par exemple ces gens qui ont eu un accident très grave, qui ressortent de là très handicapés et qui disent non mais attendez moi je suis heureux d'être en vie, j'ai du bonheur quand même. Chacun vit avec ses poids, donc c'est quelque chose aussi qu'il faut dire s'il y a des victimes qui nous écoutent, les conséquences sont extrêmement graves. Mais ce n'est pas la fin d'une vie.
Alors, on a parlé de la pédocriminalité dans les familles, aussi dans les élites, mais est-ce qu'il y a aussi une pédocriminalité, on va dire, du quotidien, d'enfants qui, par exemple, je ne sais pas moi, sont sur Internet et puis sont happés par des chasseurs, quoi, on va dire.
Ah oui, oui, alors ça, faut faire... D'ailleurs, il faut lire le livre de Véronique Béchu, « Derrière les écrans ». Donc, elle était une policière de Lofmin. Maintenant, elle a quitté, je crois, la police. Elle est directrice d'une association subventionnée, pour le coup. Mais elle a écrit un livre qui est quand même extrêmement utile, où elle alerte aussi les gens sur le fait qu'il ne faut pas mettre des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, ou en tout cas les réserver à un cercle très privé, mais pas comme ça dans le public. Et par ailleurs, il faut être extrêmement vigilant. C'est vrai, l'image elle est un peu bateau, mais c'est vrai que exactement comme on tient la main à un gamin avant de traverser la rue, et qu'on lui dit attention, qu'on disait avant, voilà, c'est un inconnu, te propose des bonbons, tu le prends pas, enfin bon, mais surtout, il vaut mieux être avec lui, hein, un enfant très jeune de toute façon, puisque tu demandes que le bonbon, il le prend quand même. Eh bien, on ne laisse pas des mineurs librement aller sur les réseaux sociaux. C'est documenté, il y a des prédateurs qui sont capables de passer 1, 2 ou 3 ans pour mettre en confiance. Donc pour groomer, je vois pas les.
Ça veut dire quoi groomer?
To groom, c'est le terme anglais to groom, mais il n'y a pas d'équivalent en français. Tu sais, de le remettre en confiance, de le séduire, tu vois, voilà. Parce que groomer, c'est ce que pourrait faire un prof avec son élève, par exemple.
D'accord.
En utilisant aussi de la persuasion, il y avait une victime, alors elle parlait de son père, elle disait on parle de contraintes, de surprises, etc. Mais l'habitude et la violence, non, pardon, l'habitude et la confiance, c'est aussi violent que la surprise. Parce qu'en tout cas, c'est aussi coercitif que la surprise. Et donc, ils vont mettre énormément de temps, éventuellement d'ailleurs en se faisant passer pour quelqu'un de leur âge. Et puis à un moment, ils vont obtenir un rendez-vous, par exemple. Moi, je me rappelle d'un ami à moi qui m'avait appelé catastrophé. Heureusement, là, ça s'était bien passé. C'était pas ça, mais qui me disait, mais tu te rends compte, ma fille, sa gamine, elle devait avoir peut-être 16 ans. Elle a été à l'autre bout, au bout de l'île de France, pour rencontrer quelqu'un qu'elle avait rencontré sur Internet. Ou, mais sinon, qui petit à petit vont leur extorquer, vont faire semblant d'envoyer, par exemple, une photo soi-disant d'eux, alors que c'est pas d'eux du tout. Et puis qui vont leur extorquer des photos et puis après qui vont les convaincre comme ça et après qu'ils les feront chanter avec ces photos et après ce sera si tu fais pas le temps se durcit, si tu fais pas ce que je te dis, je vais divulguer tes photos partout, je vais le dire à tes parents, etc. Donc il se passe beaucoup de choses. Il y a une autre violence aussi, c'est l'accès à la pornographie, enfin, qui est de plus en plus jeune et qui est une violence pour les enfants. Je précise ceci dit que c'est pas l'identité numérique la solution. Hein.
C'est pas donner vrai. Son passeport.
Non, c'est pas.
Ou mettre son visage.
Bon, de toute façon, on savait déjà. Les sites pornographiques savent déjà.
Le VPN.
Non, mais c'est pas seulement avec le VPN, mais demander une carte de crédit juste pour prouver que. Voilà, mais après, de toute façon, ils savent contourner. En ce qui concerne la criminalité organisée, quand on parle de violer la vie privée, de pouvoir potentiellement violer la vie privée de tout le monde en pouvant rentrer sur des messageries cryptées, etc., ça n'est un danger que pour la vie privée des honnêtes gens, qui, eux, vont pas s'organiser. Les criminalités organisées, dès qu'il y a un obstacle, ils les déplacent ailleurs et ils développent d'autres stratégies. Donc, c'est des choses qui sont parfaitement indigentes. Mais bref, en tout cas, pour revenir alors, ce que tu appelles, c'est pas réellement quotidien, mais oui, il y a aussi dans le quotidien ce danger, et notamment qu'il y a Internet.
Oui, parce qu'il y a des sites type des messageries qui s'appellent CocoGG, par exemple, ou d'autres, où on a des prédateurs qui...
Oui. Il a été fermé, il me semble.
Il a été fermé, mais maintenant, je crois qu'il existe un autre nom.
Mais moi, je me rappelle déjà, justement, au tout début du XXIe siècle, dans les années 2000, puisque donc, Internet était un phénomène qui était nouveau en Europe. Hein, ça commençait à rentrer dans les foyers, mais ce n'était pas encore généralisé. Hein, c'était la DSL, tout ça.
Ouais, compliqué. Voilà. Hein.
Et je me rappelle, il y avait des sites de gosses, et tu cliquais sur Pikachu, parce que, disons, tu vois,
ouais.
Et tu tombais sur un document pédopornographique. Mais et ça te rend ou ça te renvoyait vers un.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux parents qui nous écoutent et aux grands-parents qui nous écoutent et qui peut-être sont désarmés par rapport à ces sites, ce qu'ils devraient faire?
Contrôle parental, pas laisser les gamins, surtout quand ils sont petits, tout seuls devant un ordinateur, jeter un œil quand même. Sur ce qui se passe exactement, comme on regarde ou qu'on leur tient la main, qu'on fait attention qu'ils ne traversent pas sans regarder, quoi, quand ils sont...
Donc être constamment présent.
Quand ils sont plus jeunes, ne pas mettre les photos des enfants sur Internet, les réserver, parce que s'il y en a, non seulement ça peut donner des idées à des pédocriminels, mais aussi, ils peuvent aussi après utiliser les photos maintenant avec l'intelligence artificielle. Et même si tu sais que tu l'as pas fait, la photo pornographique, que c'est un montage, t'es pas content de voir ta tête, hein. De savoir qu'il y a ta tête qui circule sur des documents pédopornographiques. Et après, parce que c'est pas facile, ouais. Quand les adolescents, il y a un moment, ils veulent pas. Il y a vraiment, vraiment un travail, vraiment de les avoir alertés. On peut pas empêcher des adolescents de faire des conneries et d'essayer des trucs, mais en tout cas, vraiment, vraiment, les avoir alertés de façon très, très régulière. Ça fait partie de l'éducation que doivent donner les parents aujourd'hui. Et quand pour des enfants qui sont jeunes, des téléphones, on peut pas aller sur Internet.
Mais ce que je remarque quand même, c'est qu'entre ton premier livre de 2021 et aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est que... grâce à la technologie, les pédocriminels prospèrent beaucoup plus facilement, pour le coup.
Ils sont beaucoup plus facilement. Ils se mettent beaucoup plus facilement.
Ça, c'est le différentiel, contact. Ça. Ça, c'est vraiment le différentiel, ouais. Pour le coup.
Ils sont beaucoup moins isolés qu'avant. Ils savaient déjà avant hein, utiliser la bonne vieille poste quand ils allaient à l'étranger. Moi, je me rappelle.
Oui,
dans
mais c'était
porte,
compliqué. T'imagines à la poste et tout.
Oui, mais il y avait des. Oui, enfin, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y en a un justement du Criez qui s'était fait choper lui. Il s'était fait envoyer. Il était prof. Il s'était fait envoyer donc des documents pédopornographiques du Criez au collège où il travaillait. Et il y avait eu une erreur de casier, donc c'était un collègue à lui qui avait eu ça dans son casier, il avait ouvert, il avait dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et il avait vu à qui c'était adressé, il avait vu que c'était pas à lui, mais que c'était au prof de français d'à côté. Du coup, il l'avait dénoncé. Bon, il avait été suspendu de l'éducation nationale pendant un an, et puis après il avait été réintégré.
Hein. Oui, mais regarde le truc, c'est que entre avant, où t'avais besoin d'une semaine, deux semaines pour avoir... le fameux sésame, et aujourd'hui où à l'instant tu peux avoir, parce que moi j'ai reçu par exemple les chasseurs de pédocriminels qui avancent masqués, etc. Ce sont des jeunes de 18-19 ans qui chassent des pédocriminels et ils me disent que lorsqu'ils créent un faux compte d'une enfant ou d'un enfant, ils ont dans les 10 minutes, 80-100 demandes d'adultes pour tout de suite avoir des relations. Ça veut dire que tout de suite, je veux dire, un adulte peut, en l'espace de 3 minutes, avoir accès à 5, 6, 10 enfants.
Mais bien sûr.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Oui, mais évidemment. Alors, en tout cas, pas en France. Mais d'ailleurs, on aurait pu anticiper ça, hein, parce que pour une fois, on aurait pu, au lieu de prendre la malbouffe des États-Unis, on aurait peut-être pu voir ce qui se passait là-bas en se disant que ça allait arriver chez nous. Il y avait déjà du live streaming à la fin du XXe siècle, donc c'est-à-dire les pédos qui regardent derrière leur écran, qui demandent qu'on viole des gamins, enfin qu'on leur fasse des trucs. Il y avait déjà des tas de choses qui se sont étendues maintenant, mais qui existaient. Et alors, on a remarquablement rien fait pour prévoir l'extension de l'usage de ces outils informatiques. Alors ça, des lois Hadopi, là, pour aller mettre des amendes à des gamins parce qu'ils téléchargeaient de la musique ou des films entre eux gratuitement sur Internet, là, il y en avait. Mais, il y en avait. En tout cas, il y en avait plus. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui a été très, très mal anticipé. Mais bien sûr, comme toutes les criminalités, et notamment ils utilisent les outils qui s'offrent à eux. Quand il y a eu la démocratisation des avions, ça a été aussi un développement de ce qu'on appelait le tourisme sexuel et qu'on appelle maintenant la criminalité itinérante, c'est-à-dire des gens qui ont été, pour le sujet qui nous intéresse, qui ont été en Thaïlande, à Manille, ou en Afrique, en Amérique du Sud, pour se taper des gamins dans des pays où ils risquaient quasiment rien. Évidemment, je souligne d'ailleurs que c'est pas parce qu'ils vont à l'étranger qu'ils se tiennent tranquilles quand ils reviennent en France. Parce que la prédation est un mode de fonctionnement.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple, il y a une, deux, trois victimes qui portent plainte contre quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un, c'est bien plus que deux, trois victimes.
Ouais. Moi, quand je vois qu'il commence à y avoir 4 ou 5 ou 6 parties civiles, il va y avoir par exemple de la famille et puis les autres victimes qui sont pas dans la famille il y a plusieurs victimes qui portent plainte, je sais qu'il y en a beaucoup derrière. D'ailleurs, comme un Le Squarnet, quand ils tiennent leur carnet, comme un Keno dont je parle aussi dans le livre, quand ils tiennent leur carnet, c'est des centaines de victimes. Si on met bout à bout les vieux routards, entre guillemets, connus de la pédocriminalité. On prend un Jacques Duguay, mais il y en a d'autres. Parce que, un Évrard, parce que, en fait, les types, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font attraper, ceux qui se font attraper. Donc, pour quelques enfants, il y en a probablement bien beaucoup plus derrière. On les met en prison, on les relâche. Ils restent un peu en liberté. Pendant leur temps de liberté, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se remettent à violer des enfants. Ils retournent en prison, on les relâche. Ils se remettent à violer des enfants, etc. Voilà, jusqu'à ce que on se décide, alors qu'il a, je crois qu'il avait dans les 70 ans, un Jacques Duguay, à lui mettre 30 ans, bon, lorsqu'il a... sinon, c'est 7 ans par-ci, 2 ans par-là. Il n'y a qu'à voir le Évrard, le type qui avait violé le petit tennis, et ça faisait pas un mois qu'il était sorti de prison, qu'il a enlevé le gamin et qu'il l'a violé. En plus, il avait le Viagra que lui avait donné le médecin de la prison, ce qui est quand même incroyable. Et d'ailleurs, tiens, au passage, je signale que il n'y a pas que les victimes comme Inès Jatin qui changent de nom. C'est qui changent de nom parce qu'elles ne veulent plus porter le nom d'un père, d'un membre de la famille abuseur. C'est évidemment que, parce que le législateur est bien plein de bonnes idées, donc il n'a pas prévu que ça pouvait aussi servir aux criminels. Donc, il n'a pas exclu, puisqu'on n'a aucune raison à donner. C'est bête. Donc, Normal Lelandais...
Comment ça,
bon, on peut changer son nom, on peut prendre le nom de sa mère. Enfin, on a des...
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple...
Normal Lelandais, il ne s'appelle plus Lelandais. Et Évrard, il ne s'appelle plus Évrard.
Ah bon?
Non. Bah, je l'écris aussi. Là,
mais ça, on le fait... C'est facile pour le faire, ça?
Depuis cette loi, c'est très facile, ouais.
Bonjour, je m'appelle Normal Lelandais, je voudrais m'appeler comme ma mère. Et ok, d'accord.
C'est ça, c'est extrêmement simple, ça a été simplifié. C'est donc, c'est la disposition, quand elle est pour les victimes, c'est bien, tu vois, effectivement, quand t'as été violée pendant toute ton enfance par ton père, t'as pas forcément envie de t'appeler comme lui. Donc, là, pour les majeurs, c'est pour les majeurs, hein, par contre, là, ça devient extrêmement simple de changer de patronyme. Et tu peux le faire qu'une seule fois dans ta vie, le changement, mais tu peux prendre... c'est très très simple de prendre le nom de famille de ton autre parent. Le problème, c'est que comme d'habitude, il y a des trucs qu'ils n'ont pas anticipés, et ils n'ont pas anticipé que c'était pain béni pour les criminels. Donc, il y a aussi les criminels qui le font. Et je ne sais plus, parce que c'est une discrétion de quoi on parlait avant de...
C'était par rapport aux victimes qui ne veulent plus porter le nom de leur bourreau.
Oui, oui, mais juste avant, en fait, je ne sais plus pourquoi j'ai digressé sur ces histoires de noms. Enfin,
bon, je ne sais plus non plus. Tiens, la Réal, non. Non, je déconne. On fait retour en arrière. Non. Bon, en tout cas, oui, c'est quand même une sacrée information. Pour le coup, Normal Lelandais ne s'appelle plus Normal Lelandais.
Non. Là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je l'ai écrit dans le bouquin.
En tout cas, merci à toi, chère Laurence. Il nous reste que 50 secondes. Voilà, pédocriminalité, l'hypocrisie française. Où est-ce qu'on peut trouver le livre partout, j'imagine?
Oui, enfin, dans les librairies qui ont bien voulu le prendre quand même.
Ah, donc c'est là qu'on refusait.
Ouais, bien sûr. Il y a des très très grosses FNAC qui n'ont pas un seul exemplaire. Donc, il y en a qui ont des exemples. Enfin, on le trouve dans des librairies, on le trouve à la FNAC, oui, mais... on le trouve sur Amazon.
En tout cas, ça démontre qu'il y a quand même du chemin à faire.
Oui.
Là, pour le coup, un bouquin du Cherche-Midi, hein, pas de Guy Trédaniel ou je sais pas qui, hein, ou de Max Milo. Non, du Cherche-Midi qui est refusé dans les FNAC. Alors là, pas refusé, mais dont ils cherchent pas à comprendre, quoi.
Il y a des FNAC qui en ont,
Oui, mais tu dis qu'il y en a qui en ont pas.
Ah bah, il y a pas une FNAC de Toulouse qui a le bouquin.
Bon, passe. Bravo. Alors, mais on comprend pas Toulouse, tiens, pourquoi? Pourquoi Toulouse?
Après, si on le commande sur le site, il est là le lendemain.
Merci à toi, chère Laurence. Merci à vous d'avoir été si nombreux. À la semaine prochaine. Salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses, dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie samedi 11 avril 2026 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.